André de Mbujimayi au Katanga-Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre d'échange citoyen. Parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix. D'ailleurs, vous propose un nouveau numéro. Lors des dernières assises de l'EPU, examen périodique universitaire et universel, une dynamique des Nations Unies pour orientation et recommandation afin d'aider les États et les gouvernements d'améliorer la situation des droits humains dans leurs pays respectifs, 28 notes ont été formulées à la RDC. Il s'agit notamment de la ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux, de l'élimination de la violence sexuelle, de l'autonomisation de la femme et sa participation à la vie publique, et enfin de la mise en œuvre de la loi portant criminalisation de la torture et protection des peuples et groupes vulnérables. 3 ans après, à quel niveau la RDC se situe-t-elle dans la mise en œuvre de ces recommandations? Vous pouvez participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Nous sommes là, toute l'équipe, pour vous tenir compagnie. J.R. Lungembo, Luabung Angie, à la présentation et à la coordination de cette émission, qui bénéficie de concours à la production de Jean-Claude Nsiala et de Priscille Kabuya Mudiaï. Bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir en ligne le président de la CNDH, entendez par là, la Commission nationale des droits humains. Il est avec nous. Monsieur Mwamba, vous êtes avec nous?
Allô?
Oui, monsieur Mwamba, vous êtes avec nous? Allô? Monsieur Mwamba, vous êtes en ligne? Allô?
Allô?
Bonjour, monsieur Mwamba.
Moi, c'est Monsieur Ingoli Bolamba, je suis du comité interministériel des droits de l'homme.
Alors, excusez-nous, Monsieur Ingoli, voilà, donc on pensait à un auditeur qui les avait appelés également. Monsieur Ingoli, vous êtes avec nous, est-ce que on peut se faire une idée sur les PU, c'est quoi le PU concrètement?
Oui, merci beaucoup, Monsieur le journaliste. L'examen périodique et universel, c'est un des mécanismes du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est quoi? Le Conseil des droits de l'homme, c'est cet organe interétatique des Nations Unies qui s'occupe de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et en son sein, il y a un mécanisme, parmi les mécanismes, il y a un mécanisme qu'on appelle l'examen périodique universel. Et l'examen périodique universel, c'est quoi? C'est un mécanisme qui consiste à examiner tous les 193 États membres des Nations Unies sur leurs engagements et obligations en matière des droits de l'homme. Mmh. Et à ce sujet, notre pays a été examiné d'abord en 2009, puis en 2014 et récemment en 2019. Voilà.
Alors, 3 ans après, il y a eu certes des recommandations. Est-ce que vous pouvez nous en faire une idée très claire sur des grandes lignes des recommandations qui ont été formulées à la RDC? Parce qu'on parle de 28 notes, mais nous avons, ce qui a retenu beaucoup plus notre attention, c'est 4 notes, notamment la ratification des instruments juridiques et internationaux. De quels documents juridiques internationaux s'agit-il?
Oui, nous avons reçu plusieurs recommandations Parce que l'État, lorsque il est dans le dialogue interactif, il y a généralement trois positions. Mmh. L'État peut accepter la recommandation, l'État peut noter la recommandation, l'État peut différer la recommandation.
Mmh. Qu'est-ce que cela veut dire?
En ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, nous avions accepté au troisième cycle 239 recommandations. Mmh. Est-ce que vous me suivez?
Oui, oui, vous avez dit 239 recommandations.
Nous avions accepté 239 recommandations.
Donc 28
autres. Ces recommandations entrent presque dans toutes les catégories des droits de l'homme. Mmh. Droits civils et politiques, droits économiques, droits catégoriés, droits des femmes, droits de l'enfant, et que sais-je encore. Donc nous avions reçu 239 recommandations. Et lorsque nous avions reçu ces recommandations-là, nous avons également, parmi les recommandations comme vous aviez cité là, des recommandations qui consistent à que nous puissions ratifier les traités. Il y a des recommandations qui concernent, par exemple, les institutions, notamment le Comité interministériel des droits de l'homme, mmh. la Commission nationale des droits de l'homme, et bien d'autres recommandations.
Mmh. Bah, alors, comme vous avez dit, il y a 239 recommandations. Ce qui a beaucoup plus retenu notre attention, les quatre recommandations que nous soumettons d'ailleurs au débat, la ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux. De quels instruments juridiques s'agit-il?
Ok, merci beaucoup. Plusieurs États ont fait des recommandations sur la ratification des traités. D'abord, mmh. je dois vous dire ceci. La République démocratique de notre pays, en ce qui concerne les principaux traités des droits de l'homme, nous avons une avancée là-dessus. Parce que, mmh. au niveau des Nations Unies, nous avons les 9 principaux traités des droits de l'homme.
Okay.
Et notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié les 7 principaux traités, que je peux vous citer très rapidement.
Les 7
vous... Oui, les 7, je vous dis.
Mais ça, ce sont des avancées très significatives.
Nous avons le pacte international mmh. relatif aux droits civils et politiques. Et son premier protocole qui a institué le mécanisme de communication individuelle. Nous avons également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons la convention contre la torture. Et nous avons également ratifié le protocole facultatif de cette convention. Nous avons également la convention relative aux droits de l'enfant. Mmh. Et nous avons également ratifié les deux protocoles. L'un concernant la vente d'enfants et l'autre l'implication des enfants dans les conflits armés. Mmh. Il nous reste un protocole, c'est le protocole qui consiste à... Là, en fait, le protocole qui a commis les communications individuelles. Au-delà de ça, nous sommes également partis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mm-hmm. Nous sommes également partis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mm-hmm. Et récemment, en 2015, nous avions adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, il nous reste deux conventions. Deux conventions.
Voilà.
Il y a la convention qui porte sur les personnes disparues, et okay. l'autre sur les travailleurs migrants. Okay. Donc, sur les principaux traités des droits de l'homme. Donc, voilà, ce sont les deux conventions.
Donc, on peut à ce jour dire, après le troisième cycle, la RDC a réalisé des avancées très, très significatives.
Oui, pour ce qui concerne les principaux traités des droits de l'homme. Mmh. Donc, il nous reste maintenant deux que notre gouvernement doit faire un effort pour ratifier à ces deux conventions-là.
Okay.
Au niveau des Nations Unies, je dis bien les principaux traités des droits de l'homme.
Mmh.
Et plusieurs États ont recommandé à ce que nous puissions adhérer à ces deux conventions.
Au niveau de la région.
Pardon?
Au niveau de la région ou de la sous-région?
Au niveau de la région. Je commence par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mmh. Notre pays est parti à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est également parti au protocole à la charte, au protocole que nous appelons communément le protocole de Maputo. Il y a également la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Et bien d'autres. Bon, je vous
voilà.
parle là.
Voilà, donc, on comprend, M. Ngoli, que, effectivement, la RDC est présente, que ce soit à l'international et dans la région. Alors, donc, vous êtes satisfait, après les troisième cycles, d'avoir été vraiment à la page, une bonne école, par rapport aux recommandations. Alors, si vous le permettez, on va faire le tour des auditeurs qui sont éparpillés à travers le pays et également à l'étranger, qui nous écoutent en ce moment. En tout cas, vous êtes nombreux aux États-Unis, Cédric Luani, qui est toujours accroché à son ordinateur, même pendant les travaux aux États-Unis, pour écouter parole aux auditeurs pour lui. Merci, en tout cas, des mots gentils que tu ne cesses de nous envoyer. Merci également à vous tous qui êtes à Vienne. On ne sera pas, d'ailleurs, faute avec nos petits soucis avec nos plateformes digitales, on ne sera pas recueillir quelques points de vue que nous avez envoyés. Mais le reste, vous pouvez nous appeler en direct au 081-890-6330 ou encore au 081-890-4969. Monsieur Ngoli, ne quittez pas, gardez la ligne.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Participez, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. Parole aux auditeurs.
Voilà, on vous reçoit, on vous accueille, vous tous qui êtes branchés sur Radio Capi. Merci d'être à l'écoute de la fréquence de la paix pour vous informer. Maître Omar, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JRE, merci de nous accorder le verbe.
Alors, si on les rappelle, un petit résumé de ce que notre invité venait de dire, l'examen périodique universel est un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue périodiquement les réalisations de l'ensemble des 193 États de l'ONU dans les domaines des droits de l'homme. Et la RDC, qui en fait partie, a reçu 239 recommandations. Alors, aujourd'hui, en évaluant la mise en œuvre de ces recommandations, on se rend compte qu'après le troisième cycle, la RDC est très, très avancée. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, j'ai dit verbe que vous m'avez dit. Avant de répondre à votre question, d'abord, il faudrait que l'invité ajoute dans sa liste des textes principaux aussi, comme la déclaration des Rio de 94 sur l'environnement, la déclaration de Tokyo sur les effets des serres, sans oublier une convention phare en Afrique, la convention de Maputo sur le droit de l'environnement. Il peut aussi ajouter ça, auquel la RDC a ratifié. Alors, très chargé par rapport à votre question, les avancées, je pense, elles sont théoriques. C'est que nous avons toujours déploré. D'ailleurs, un professeur disait que les droits internationaux étaient un droit mou.
Les avancées sont normatives et théoriques, selon vous. Normatives.
Au-delà des 239, on a toujours des textes. La Constitution a clarifié les choses. L'article 215 dit quoi? Les traités dûment ratifiés ont une force supérieure aux lois. Est-ce qu'on les applique? Je vais revenir par ce que lui-même a cité. Il parle du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, parce qu'au Congo, lorsqu'on fait les bilans, on fait l'examen, on se limite aux droits politiques. C'est bien, on donne l'accès à tout le monde de postuler, de voter, de participer à la vie politique. Mais les droits importants...
Oui, mais il faut les reconnaître, Omar, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si même dans un passé très récent, les pactes relatifs aux droits politiques étaient difficilement appliqués à l'RDC.
Tu sais ce que je dis, c'est une avancée significative parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la parole de
l'époque. Liberté d'expression.
Oui, quelqu'un peut passer critiquer les chefs de l'État, c'est un effort louable. Mais là où les bas blessent au niveau des autres aspects des droits de l'homme, les droits économiques, les pactes dont il a cité sur les droits économiques et sociaux ont listé un certain nombre de droits au peuple, notamment le droit à un travail décent. Est-ce que les Congolais ont accès? Chaque année, la CNDH, l'examen qu'il a cité, ainsi que les départements de l'ONU sur le droit de l'homme, déplore le faible accès au travail. Quand je parle du travail, je ne parle pas de job. Je parle d'un travail au sens noble de ces termes. Chaque année, il y a un problème de sous-traitance. Les gens souffrent. Peu de Congolais seulement ont droit à un travail décent. Peu de Congolais ont droit à un salaire décent. C'est un aspect important. On a des textes, on a ratifié, on les lit, on les garde au bureau, on n'en applique pas. On parle de la torture. Aujourd'hui, nous sommes avocats. La torture bat toujours son plein. Alors moi, je pense, il y a même par rapport à l'environnement. On a récemment ratifié, il n'a pas cité ça, la loi sur l'environnement qui interdit de fumer en public. Nous avons ratifié et ça m'a pris fort.
Mais à longueur de journée, même sur la place publique, on se rend compte que finalement, on est parfois victime de pollution, hein, de la fumée
tous les jours
que dégage. Voilà.
Donc, par rapport aux violences sexuelles, Allah, il faudra féliciter parce qu'au-delà des textes internationaux, au niveau interne, une loi a été prise en 2006 et elle a été complétée. Cette loi a trois avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir instauré la célérité. Aujourd'hui, en matière de violences sexuelles, lorsqu'il y a un cas flagrant, on y va vite. Des deux, il y a la non-partenariat de la qualité officielle. Aujourd'hui, même si vous êtes ministre et député, lorsqu'il y a un cas de violence sexuelle...
Voilà. Alors, on a compris quand même votre idée. Vous évoquez la question de l'applicabilité ou l'application de tous ces traités internationaux, parce que c'est vrai, il y a des avancées, comme vous l'avez souligné, normatives, mais ça demeure beaucoup plus théorique que pratique. Alors, nous vous gardons en ligne. Omar, ne quittez pas. Nous vous gardons en ligne. Le temps d'écouter également Amos, s'il partage votre avis. Amos, bonjour Amos.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à l'invité présent au studio.
Alors, votre réaction après avoir écouté notre invité, M. Ngoli, et également votre prédécesseur, Omar, que nous allons retrouver d'ailleurs dans le cadre de ces panels, entre les trois, voir un peu comment on peut faire cet échange ensemble. Votre réaction, Amos.
Merci bien JR. En fait, j'étais d'abord à féliciter le choix du sujet d'aujourd'hui par rapport au respect des droits de l'homme au niveau de notre pays. L'invité a eu à dire que non, jusque-là, il y a des avancées significatives parce que notre pays a eu à ratifier plus de 7 traités ou conventions, ce qui est déjà bon. Mais je reviens sur un mot-clé. Il ne suffit pas seulement de ratifier, mais il faut aussi voir l'applicabilité des textes qui ont été ratifiés en faveur de se diriger. Je pense que c'est là où il y a débat. On peut spéculer comme nous, Congolais, nous sommes des experts en spéculation, en théorie, mais c'est la pratique qui compte en faveur de la population. Et si nous essayons d'évaluer par rapport à l'applicabilité de ces textes, c'est du chaos sur le terrain. À part, oui, je vois, par exemple, là où on a parlé de la participation de la femme.
Oui, mais n'oubliez pas, Amos, l'EPU, oui, comme examen périodique universel, n'a pas un pouvoir, contraignant, parce qu'il reste dans le cadre de consultations, des orientations et des recommandations aux États pour améliorer la situation des droits humains dans leurs États respectifs.
Tout à fait. C'est là que j'ai une chance de dire que les problèmes de chaque pays dépendent de ses dirigeants, médiocres ou pas. C'est ça, c'est là où il y a problème. Au moment où j'étais en train de parler de l'autonomisation de la femme et sa participation à la vie publique. Oui.
Oui, ici, il y a quand même des avancées aujourd'hui.
Il y a des avancées, ça je confirme. Mais jusque-là, on n'est pas au niveau où notre constitution parle de 50% à son article 13. C'est ça le problème. Mais pour d'autres questions, même pour ce qui est des droits des enfants, on fait d'organiser des émissions avec vous. La situation est catastrophique. Même pour ce qui est des violences sexuelles faites à la femme, c'est grave dans un pays où il y a des groupes armés, des panoplies de groupes armés, où l'État ne contrôle pas. C'est du n'importe quoi qui s'y opère. Il faut voir ce qui se passe.
Mais Amos, il faut reconnaître par le passé, il y avait un énorme vide juridique en matière de respect des droits humains. Et maintenant qu'on avance à un pas, mieux vaut un que deux, tu cherches.
Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est là que j'ai commencé. Des textes, nous les avons. J'ai toujours dit que...
Nous commençons à les avoir. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en avait pas, Amos.
Très bien, j'encourage les censeurs de dire souvent que la RDC ne fait pas la honte aujourd'hui par manque de bons textes. L'occurrence, notre constitution. Notre constitution a tout prévu, à part même ces textes-là ratifiés, à part les traités ratifiés, les conventions. Notre constitution a tout prévu pour le bonheur du peuple congolais. Mais malheureusement, nous avons toujours connu un problème de leadership responsable. L'invité venait.
Votre discours ne rencontre pas l'assentiment de ceux qui pensent que c'est la Constitution, elle est pratiquement un livre élaboré à l'avantage des belligérants, donc on doit passer à autre chose.
Si tel est le cas, alors, nos dirigeants, s'ils ont compris que c'était rédigé à l'avantage des belligérants, il fallait alors qu'ils appliquent les textes qui avantagent la population, ce qui n'est pas le cas. Le premier intervenant, il venait d'évoquer les droits socio-économiques. Il a évoqué le problème de l'accès à l'emploi.
Alors, Amos, ne quittez pas, gardez la ligne. Je reviens à vous, monsieur Ngoli. Monsieur Ngoli, vous êtes avec nous, hein?
Oui, je vous écoute.
Alors, après avoir écouté les deux intervenants tout à l'heure, qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? Vous, en tant qu'acteur, qui a déjà un pied dedans, dans la défense des droits humains.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous dis ceci, que notre gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. J'ai suivi tout à l'heure lorsque le premier intervenant a parlé des droits économiques. Je vous dis que les droits économiques sont progressifs. Mmh. Les droits économiques sont progressifs. Si vous prenez le pacte lui-même, il est clair.
Sont progressifs.
Pour vous répondre, veuillez m'excuser.
Oui, ça veut dire quoi, progressif? Ça veut dire que c'est tout un processus.
L'État est en train d'appliquer progressivement. Je vous donne par exemple, parce que nous parlons des droits économiques. Vous voyez ce que notre chef de l'État est en train de faire à travers la gratuité de l'enseignement.
L'accès aux droits, aux soins de santé.
La gratuité de l'enseignement.
Et gratuité aux soins de santé universelle. L'accès aux soins de santé.
Oui, la gratuité de l'enseignement. Mais c'est dans une des dispositions du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mmh. Donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, lorsqu'il est en train de dire que nous avons seulement ratifié, nous avions fait ceci, c'est... Non, non.
Des avancées normatives et théoriques.
Le gouvernement de la République est en train de faire beaucoup de choses. Je vous ai cité ici de la gratuité. La gratuité, il y a des États où il n'existe pas la gratuité. Mais regardez aujourd'hui ce que le chef de l'État a fait. C'est une grande réalisation. Non seulement ça, monsieur le journaliste, parce que nous parlons des droits économiques, sociaux et culturels. Mmh. Au niveau de la santé, les initiatives du chef de l'État. Mais il faut sentir quand même. C'est ainsi que je vous ai parlé ici, que les droits économiques sont progressifs. Petit à petit, on va améliorer. Et même tous ces grands États-là qu'on est en train de citer aujourd'hui. Mais au départ, ce n'était pas si facile. Donc, ce qui fait que le gouvernement de la République est en train de faire beaucoup de choses en ce qui concerne le droit de l'homme. Il ne faut pas négliger tout ce que le gouvernement est en train de faire. C'est ce que je peux vous répondre pour l'instant. Merci. Il y a énormément de choses.
Voilà, on va revenir à vous le temps de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis du retard dans la ratification des deux dernières conventions dont vous venez de parler tout à l'heure. Mais l'État délibéré Amos et Omar, et puis on va prendre d'autres auditeurs qui vont également participer dans le panel, Maître Edmond et Sylvain Debounia, qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre pour participer dans ce panel et donner également leur point de vue. Alors, Omar, vous avez compris que finalement les droits économiques que vous évoquez tout à l'heure doivent demeurer dans le cadre, comme le dit les principes, les principaux traités des droits de l'homme, que ça doit être progressif.
Non, je suis contre l'avis de l'invité. Un droit n'a jamais été progressif. Un droit reste un droit, surtout le droit de l'homme, ils sont non négociables. C'est l'ère mise en œuvre au Congo qui est progressive. On doit se le dire par rapport aux réalités du Congo. Je sais que les problèmes sont partout. Ils sont partout, mais ici, ça gros. Pour faire respecter les SNEC-JR, une loi qui a été votée dès 30 ans, on a besoin d'un texte international pour rééduquer la sous-traitance qui fait souffrir les Congolais, un droit économique fondamental. On a besoin de la progression. C'est vrai, les problèmes urgent partout, mais dans la vie, il y a des priorités, de l'accessoire. Voilà pourquoi je dirais à l'invité, le mandat public n'est pas un mandat d'explication, c'est un mandat d'action. Soit on avoue qu'on a échoué, on reconnaît les faibles commencements et on avance.
Merci beaucoup.
Je veux vraiment finir. Je pense qu'il y a quatre solutions rapidement pour que nous puissions faire respecter. Un, la promotion et ses droits de l'homme. Deux, la revendication. Nous, peuple, nous devons être en mesure de revendiquer. Si on ne revendique pas, le gouvernement sera amorphe. Trois, la répression, les sanctions exemplaires lorsque les droits de l'homme sont violés. Et enfin, je voudrais finir avec l'exécution. On a des textes qui ont été adoptés au niveau international. Il faut aussi les appliquer. Chaque année, la CNDH, les ONG des droits de l'homme, l'ONU, appliquent, recommandent, mais on n'applique pas. Je suis d'accord. Je félicite les peuples des commencements. Ils sont toujours normatifs. Nous voulons aller de l'aider-là. On ne critique pas le gouvernement. Félicitations pour le peu qui est fait, mais il faut aller de l'aider-là. Car lorsqu'on a les pouvoirs, on ne se plaint pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar, d'avoir d'abord reconnu qu'il y a des avancées très significatives. Et vous demandez à ce que les gouvernements puissent mettre un peu, une fois encore, des bouchées doubles pour arriver à réaliser. Et au peuple, vous demandez de savoir revendiquer. Et la répression pour des cas qui sont avérés des violations des questions des droits humains, et il faudrait en même temps que nous restons dans l'applicabilité, ce que vous avez appelé l'exécution des traités dûment signés à l'étranger qui ont force supérieure sur la loi nationale. Merci beaucoup, Omar. Alors, on va prendre Amos. Amos, placez un mot hein, après avoir réécouté l'invité, et puis on va vous libérer également.
Justement, je voulais dire à notre invité qu'il doit éviter des analyses partiales au moment où il reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire et que les problèmes sont là. On ne peut pas voter une loi ou ratifier une traité et dire que ça devient progressiste. Non, on le vote pour qu'on l'applique à l'intérêt de ses administrés. Je dis que tant que nous aurons des dirigeants qui ne vont pas diriger selon nos textes, en l'occurrence la Constitution et d'autres traités qu'ils parviennent à ratifier, rien ne changera. Et en citant, je voulais appeler plutôt le peuple congolais de continuer à mettre une pression derrière nos dirigeants, parce que comme on sait de le dire, les droits s'arrachent. On ne viendra pas nous donner nos droits sur un plateau comme un gâteau. Non, nous avons toujours eu des dirigeants qui n'ont pas de volonté de voir les conditions de vie de leurs administrés s'améliorer. Et voilà pourquoi ils profitent souvent de notre naïveté, et telle est la source de notre misère de tous les jours.
Merci beaucoup, Amos, d'avoir accepté d'intervenir. Alors, on va prendre Edmond. Edmond, vous nous avez rejoint. Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, cher, bonjour. Bonjour, monsieur.
Voilà, vous avez la parole, Edmond. Quelle est votre réaction?
Oui, monsieur Gilles, je pense que, moi, ce qui me concerne, au sujet de différentes recommandations, telles qu'évoquées, je pense qu'il y a vraiment des avancées significatives. Ça voudrait aller une recommandation après une autre. Par rapport à la ratification des instruments juridiques nationaux et internationaux, moi je pense que notre pays a ratifié beaucoup d'instruments juridiques. Je pense que même avant que ces recommandations soient faites, il y a le protocole de Maputo, il y a la charte africaine des droits de l'homme et du peuple.
Comme l'a souligné notre invité tout à l'heure.
Oui, il y a plusieurs instruments juridiques que nous avions ratifiés et qui sont en application dans les pays. L'élimination des violences sexuelles, nous avons une loi sur les violences sexuelles et les cours des tribunaux sont là pour réprimer ceux qui commettent cette infraction de violence sexuelle, l'autonomisation de la femme. Mais monsieur, je pense que les gens doivent savoir qu'au niveau du Parlement, au niveau des grandes institutions du pays, nous avons des femmes, même des récentes nominations de mandataires publics. Vous trouvez que partout, à la magistrature, dans les entreprises publiques, il y a toujours des femmes qui sont là. Et c'est ça l'autonomisation de la femme et la participation de la femme dans la vie active, dans la vie politique ou publique. Mise en œuvre de la loi contre la criminalisation. La loi de 2011 est là, mais c'est une loi qui connaît un peu de retard parce que la loi apparemment n'est pas vraiment connue dans les...
Oui, mais tout à l'heure, avant que vous preniez la parole, il y a Omar, Maître Omar, qui disait que apparemment il y a des avancées normatives, mais qui demeurent encore théoriques.
Oui, moi je pense que les avancées sont pratiques sur le point que je venais d'évoquer. Peut-être je pourrais lui donner raison sur la mise en œuvre de la loi sur la criminalisation de la torture. Il existe une loi qui a modifié les codes pénals, mais moi je pense qu'en tant qu'acteur judiciaire, cette loi n'a pas été divulguée. Et donc les gens ne connaissent pas vraiment cette loi parce que des fois, lorsque vous allez, on arrête les coulons, entre guillemets les coulons, on arrête les présumés bandits, même dans les offices de police, on trouve qu'il y a vraiment ces présumés criminels sont torturés. Et ces policiers qui font de telles exactions n'ont jamais été poursuivis devant la justice. Mais en ce qui concerne la protection des peuples et groupes vulnérables, mais vous avez une loi qui vient d'être votée récemment ici qui protège les peuples autochtones. Nous avons une loi qui protège les PVV, les personnes vivant avec les VIH. Et nous avons des lois qui protègent les personnes vivant avec handicap. D'ailleurs, nous avons un ministère aujourd'hui dirigé par une dame aussi et qui met en œuvre la vision du chef de l'État en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, mais on ne saura pas réaliser le maximum de toutes les avancées dans une journée. C'est un travail de longue haleine que les autorités doivent se battre pour que les différentes recommandations soient pratiques et d'une manière intégrale.
Voilà. Alors, merci beaucoup, Maître Edmond. Nous vous gardons en ligne et ne quittez pas. Il est temps d'ailleurs de revenir à vous, Monsieur Ingoli. C'est vrai, quand vous écoutez un auditeur qui reconnaît quand même il y a des avancées et qui tient à ce que, finalement, il faut, à un certain niveau, qu'il y ait des garde-fous pour aider quand même les victimes à ne pas demeurer victimes, mais plutôt qu'il y ait amélioration de leur situation dans l'avenir. Alors, qu'en est-il des sanctions à l'endroit des États qui n'atteignent pas le niveau de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le Conseil international des droits humains?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. En ce qui concerne les sanctions en soi, il n'y a pas vraiment des sanctions telles que l'emprisonnement, tout ça. Non, non, non. Les États sont souverains. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque on est là, l'État a trois positions. La première position, c'est que l'État accepte la recommandation. La deuxième position, c'est que l'État note la recommandation. Note, c'est purement diplomatique, mais en soi, c'est révisé. Et la troisième position, c'est que l'État peut différer la recommandation. Mais en ce qui concerne les sanctions, non, il n'y a pas de sanctions en soi. Mais l'État qui a accepté la recommandation doit quand même honorer ses engagements. Voilà ce que je peux vous dire. L'État doit honorer ses engagements parce que, monsieur le journaliste, quel est le but de toutes ces recommandations? Le but des recommandations, c'est quoi? C'est améliorer la situation des droits de l'homme. Voilà le but des recommandations. L'État accepte la recommandation, il dit bon voilà, j'accepte la recommandation, mais l'objectif est d'améliorer, je vais améliorer. Dans un domaine précis, je vais améliorer la situation des droits de l'homme. Mais en soi, il n'y a pas de sanctions, mais pour moi j'insiste que l'État qui a pris la recommandation doit honorer, c'est-à-dire mettre en œuvre la recommandation. Voilà ce que je peux vous dire.
Donc, si je comprends bien, l'année prochaine, en 2023, lors de la 43e session de l'EPU, la RDC participera tête haute avec le sentiment d'un travail accompli parmi les dernières recommandations.
Oui. D'abord, je voudrais porter un petit collectif là-dessus. La RDC ne sera pas examinée en 2023. Elle sera plutôt examinée en 2024. Je peux vous dire, monsieur le journaliste,
donc 5 ans après 2019.
Après un examen à mi-parcours, en fait, l'examen à mi-parcours que nous avions fait, je peux vous dire que il y a beaucoup de réalisations. C'est vrai, je ne suis pas sans ignorer qu'il y a des défis. Mais notre gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Et lorsqu'on venait de faire l'examen ici à mi-parcours, nous avons découvert énormément de choses que le gouvernement est en train de faire. Parmi les 239 recommandations là, n'est pas le moment parce que peut-être que nous aurons un temps lorsque vous allez organiser une émission. C'est là où je vais peut-être vous démontrez tous les efforts du gouvernement, mais il y a énormément de choses.
D'accord. Alors, vous avez parlé de 9 principes, principaux traités des droits de l'homme, dont la RDC a ratifié 7 jusque-là, et les 2 restent encore. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la RDC accuse des retards dans la ratification des 2 conventions?
Jusque-là, il y a un travail que nous sommes en train de faire avec, en fait, notre ministère qui est conduit par son excellence, Monsieur Fabrice Puella, est en train de faire aussi un grand travail non négligeable. Nous sommes en contact avec la commission des droits de l'homme du Parlement et un effort est en train de se faire dans ce sens-là pour que les 2 autres traités-là soient que la RDC puisse vraiment adhérer à ça. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On est en train de travailler, monsieur le journaliste.
Alors, monsieur Ngoli, on va revenir à vous. Le temps d'écouter l'autre auditeur qui nous a rejoint. Sylvain, il nous a rejoint. Hein. Sylvain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, cher. Je salue l'invité, même tous les auditeurs qui nous attendent en ligne.
Voilà, vous avez la parole, Sylvain.
Bien, en fait...
Oui, en attendant que la ligne de Sylvain s'améliore, on va revenir à vous, Edmond, tout à l'heure. Vous, tout ce que vous avez dit. Alors, après avoir écouté l'invité, quel est le sentiment que vous avez?
Oui, monsieur Gilles, moi, j'ai suivi l'invité. Il parle au sujet de sanctions. Je pense que les Nations Unies ne peuvent pas mettre en place des textes, des accords ou de traités ou la charte pour que les États puissent à tout moment violer. Donc, c'est impossible. Il y a toujours des sanctions, mais ce ne sont pas des sanctions qui sont directes. Aussi, le plan interne. À chaque fois que les pays adhèrent à une charte ou un accord international, je pense que le pays, sur le plan interne, a le pouvoir de pouvoir prendre des mesures qui peuvent faire en sorte que ces traités ou ces accords soient respectés. Mm-hmm. Par exemple, s'il faut, par exemple, appliquer les règles liées à la lutte contre les violences sexuelles, ben vous avez une loi sur les violences sexuelles. Et dans cette loi, vous trouvez des sanctions. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les recommandations qui sont faites, auxquelles l'État adhère ou exécute, l'État, sur le plan interne, prend des mesures comme des lois et les citoyens. Parce que l'État, c'est le gouvernement, c'est une personne morale. Ce n'est pas l'État qui va respecter, dans le sens pratique, ces recommandations des citoyens, comme les qui doivent respecter les droits de l'homme. Les citoyens, c'est le chef de l'État, c'est le ministre, c'est le député, les journalistes et consorts. Et il faut des sanctions. Bon, vous avez des sanctions, par exemple, vous avez les statuts de Rome qui imposaient la répression contre les crimes internationaux, mais aujourd'hui, dans nos textes juridiques, vous avez le code pénal militaire, vous avez la loi sur l'organisation judiciaire d'une crise qui réprime réprime aujourd'hui les crimes internationaux. C'est dans ce sens-là que les sanctions peuvent exister, justement pour que l'État puisse avoir la force et de pouvoir imprimer, de pouvoir vraiment mettre en œuvre justement des recommandations. Donc, on ne saura pas vivre sans sanctions si nos recommandations n'auront pas de force et toutes les lois votées sur base de ces recommandations ne seront pas d'application.
Voilà, merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission avant d'entamer les derniers quarts d'heure de ce programme citoyen sur la fréquence de la paix. Nous vous rappelons que nous parlons de la situation des droits humains dans le monde avec les derniers examens périodiques universels organisés en 2019 et les prochains interviendront en 2024. Et la RDC a reçu quant à ces deux recommandations qui ont été formulées, mais comme vous venez de suivre notre invité, il y a pas mal d'avancées réalisées. Et en termes de la ratification des instruments juridiques, en termes de l'élimination des violences sexuelles, en termes de l'autonomisation de la femme et aussi de la mise en œuvre de la loi portant criminalisation de la torture. Alors, qu'en pensez-vous?
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Ocapi Service.
parole aux auditeurs.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue, la parole aux auditeurs. Nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission avec vous, Sylvain Debounia. Vous, je crois que la ligne s'est améliorée.
Oui, je pense que vous me suivez.
Oui, on vous suit 5 sur 5. Alors, quelle est votre position?
Non, en fait, j'ai suivi l'invité d'une manière assez partielle, puisque là, vous m'appelez, j'étais dans une réunion. Mais je me pose à cette question si vraiment ce qu'il dit corrobore avec la réalité que nous vivons. Nous parlons de la question des droits humains en République démocratique du Congo. Et nous avons été contents que l'IDPS prenne ce pouvoir-là, puisque ça a été un parti qui s'est battu pour les droits humains. Mais je ne voudrais pas ici citer beaucoup d'exemples quant à ce qui concerne les violations des droits humains avec la guerre qui se passe à l'Est, et que le régime ne soit pas capable d'arrêter ça. Donc nous sommes dans une situation de violation quotidienne des droits humains. Je vais prendre le premier point, la ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux. Ça, au moins, la RDC l'a fait depuis qu'elle existe comme État. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème, c'est son applicabilité, l'applicabilité de ces instruments. L'élimination des violences sexuelles, mais c'est le journaliste. Je suis en Ituri. Nos mamans sont violées chaque jour ici. Les petites filles n'en parlons même pas. Dans les grands Kivu, c'est la même chose. Et je pense que si on est en train de débattre de la question de l'élimination des violences sexuelles, c'est exactement par rapport à la partie orientale de la RDC. Ceci devrait pousser le gouvernement à mettre son attention particulière sur la partie est du pays. Et je me dis, à moins que les gens ne soient pas conscients des objectifs qu'ils sont en train de poursuivre dans leur gouvernance, eh bien, on peut dire que les choses avancent. Ce pays est cartographié. Il y a des espaces où on ne peut pas parler de violence sexuelle. Et il y a encore des espaces où vraiment il faut que l'État s'assume pour que cet objectif soit atteint. Là, le gouvernement a zéro. Troisième élément, lorsqu'on parle de l'organisation de la femme, nous sommes au Congo, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Quels sont les projets? Parce que il faut que nous puissions être directs par rapport à ce que nous disons. Mmh. Autonomisation de la femme veut dire lui donner des capacités financières, techniques, matérielles.
Donc une liberté, un pouvoir économique. Pour qu'elle soit capable de répondre. Parce qu'elle a la base aujourd'hui de plusieurs mots dont sont responsables les femmes, c'est par rapport à ce manque de pouvoir économique.
Et vous savez que nos économies ménagères, puisqu'il faut qu'on dise peut-être des choses d'une manière simplifiée, reposent sur les efforts des femmes. Mmh. 9 sur 10 de nos ménages vivent par rapport aux efforts réalisés par les femmes. Mmh. Et c'est pour ça que les Nations Unies sont tout à fait d'accord pour que nous puissions arriver à autonomiser ces personnes-là. Mmh. Ici, je ne voudrais même pas aborder l'aspect de la participation politique de la femme dans la vie publique. Juste cet aspect de rendre la femme motrice effectivement du développement local, puisque ne vous en faites pas, lorsque les enfants sont malades, la première personne qui est dérangée, c'est la maman. Lorsque l'enfant n'a pas mangé, c'est la maman. Lorsque même le papa lui-même n'a pas mangé, c'est la maman. Mais quelle est la politique gouvernementale qui va autonomiser cette femme? Moi, je suis en train de travailler sur un projet de l'accompagnement entrepreneurial des mamans dans les ménages. Nous avons plus de 50 000 mamans identifiées sur l'ensemble de l'Ituri. Mais ces mamans vous demandent juste 10 dollars pour financer leur petit projet, en fait qu'elles soient autonomes par rapport à ce qu'elles font. Mmh. Mais quelle est cette politique de notre pays pour accompagner ces mamans-là? Nous utilisons des mamans pour des propagandes inutiles et faire chanter pour les politiciens, ça doit s'arrêter. Je vais terminer par un élément pour laisser la parole aux autres d'intervenir. Lorsqu'on parle de la mise en œuvre de la loi portant...
Oui, alors si vous le permettez, Sylvain, vous gardez la loi portant criminalisation de la torture. Alors, nous vous gardons en ligne, il est temps de revenir sur Marie-Paul qui nous a également rejoint. On va revenir à vous, Sylvain. Marie-Paul, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Votre réaction, Marie-Paul?
Oui, je salue mon ami Survey, je salue tous les auditeurs de la radio Capimont. Hein. Je pense que, monsieur le journaliste, toutes ces recommandations faites, ce sont des recommandations qui sont dans l'essence de pouvoir instituer une bonne démocratie dans notre pays et un régime de l'état de droit. Vous savez, dans les pays où il y a où règne la démocratie, tous ces éléments doivent être d'observance. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui tirent un peu la nation ou l'État vers les bas. Et ça freine beaucoup le développement. Et lorsque on nous demande, on nous fait toutes ces recommandations, notamment l'observance des droits de l'homme. Et les Nations Unies ne sont pas allées très loin que par rapport à notre constitution, parce que nous, nous disons que la vie est sacrée. Et pour rendre cette sacralité de la vie, nous devons maintenant respecter l'homme et l'autonomisation de la femme. Si nous lisons notre constitution, monsieur le journaliste, il y a quand même la part des 30% qui reviennent à la représentation de la femme. Mais nous avons de la peine pour faire appliquer ces genres de dispositions que nous-mêmes nous avons mis comme notre constitution, notre la loi fondamentale. Et si on revient à cela, moi je crois que ce qu'il faut ici pour nous, pour tous les gouvernants, pour nous les Congolais, c'est de pouvoir nous approprier toutes ces recommandations et que les parlementaires puissent ratifier. Dès la ratification, c'est tout simplement...
Oui, mais avant vous, il y a même un auditeur qui a évoqué la question de la sensibilisation. Et c'est vrai que la population n'ayant pas toutes les informations, ne sait même pas qu'est-ce qu'on a ratifié, quels sont les avantages qu'on peut tirer d'avoir tel traité ou tel autre, d'avoir adhérer à telle convention. Donc voilà, tout ça, il faut une sensibilisation. Mais nous vous gardons Aline et Marie-Paul aussi. On va revenir à vous deux, à Sylvain et à Marie-Paul. Et puis, il est temps peut-être de réécouter notre invité, Monsieur Ingoli. Monsieur Ingoli, vous venez d'écouter les inquiétudes de Sylvain et aussi l'appui par rapport à tout ce que vous venez de dire de Monsieur Marie-Paul qui nous a appelé de Kisangani. Quelle est votre réaction? Allô, Monsieur Ingoli?
Oui, allô.
Oui, je disais, vous venez de suivre les deux intervenants. Quelle est votre réaction? Vous êtes en direct, Monsieur Ingoli.
Oui, merci beaucoup. S'agissant de l'autonomisation de la femme, je ne voudrais pas beaucoup plus parler là-dessus parce que son Excellence, Madame la Ministre du Genre, est en train aussi de faire beaucoup de choses. Et il y a des réalisations que je ne saurais pas vous parler ici, mais s'agissant de ces points-là, nous avons également des avancées. C'est vrai qu'il y a des défis, mais des défis que le gouvernement est en train de relever petit à petit. Est-ce que je voudrais juste vous parler de cette question, oui.
Voilà. Alors on va laisser Sylvain placer juste un dernier mot et puis on va revenir à vous. Marie-Paul aussi va placer un mot. Sylvain.
L'autonomisation des femmes, il faut pas prendre Kinshasa pour le Congo. Nous avons des femmes rurales d'ailleurs qui font beaucoup, qui nourrissent même les milieux urbains. J'insiste sur ce programme-là. Il faut que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse financer ces mamans au niveau des villages, dans leurs activités entrepreneuriales. Je voulais finir par ce qu'on appelle la condamnation de la torture et tout. Mais écoutez, messieurs les journalistes, c'est là où il y a un problème. Nous avons des tortures qui se font ici dans les espaces occupés par les rebelles. Je cite bien la partie orientale de la RDC. Mais nous négocions avec ces bandits. C'est là où je dis le régime Félix échoue petit à petit puisque lui-même refuse de pouvoir appliquer les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux que la RDA a signé, et je crois que c'est une honte, c'est un échec. Il faut qu'on puisse repenser la politique publique de nature à protéger les Congolais et leurs biens. Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à mettre en place tous les mécanismes, toutes les politiques possibles pour appliquer les lois de ces pays contre des gens qui sont des criminels.
Voilà, merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Je crois que petit à petit, on s'approche de la fin de l'année et on va vous retrouver dans un autre débat sur les bilans politiques. On va faire une rétrospective par rapport à la situation des événements qui ont émaillé l'année 2022 dans les jours à venir. Donc la semaine prochaine, vous allez nous suivre dans des émissions relatives. Sylvain, merci et on va accorder également la parole à Marie-Paul. Marie-Paul, juste placer un mot après avoir écouté l'invité.
Oui, mais, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que la RDC est, à nos jours, l'épicentre des violations spectaculaires des droits de l'homme. Et d'où toutes les autorités, nous tous, nous devons mettre vraiment l'aile dedans pour éviter quand même que cette situation soit notre fléau. Et aussi, si nous voyons comment des choses se font en RDC, il y a quand même trop de soucis à ce qui concerne l'autonomisation de la femme, la considération de la femme. Alors que nous avons bel et bien exprimé à travers la Constitution que la femme devrait avoir une place. Et tout ça, nous devons également faire fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions respecter aussi bien notre constitution et respecter la femme, ce qui est quand même un engage de développement dans notre pays. Et arriver à ce niveau-là, si nous commencions à responsabiliser la femme et que nous respectons la constitution, nous respectons l'homme, et l'homme étant au centre, c'est lui le souverain primaire, je crois que les choses vont bien avancer. Voilà, c'est un défi qui est lancé, et ces défis-là doivent être justement être relevé pour que les pays avancent. Sinon, nous allons faire les 6 places et que le gouvernement ne va pas avancer. Nous serons juste des spectateurs. Nous serons juste un pays où il aura des slogans, des
voilà.
Slogans.
Merci beaucoup, Marie-Paul. On ne pourra pas aller plus loin. Le temps nous est parti. Fait défaut. On retrouve notre invité, M. Ingoli, un des membres de la Commission nationale des droits aux droits de l'homme, en RDC. Avec lui, on va conclure cette émission. M. Ingoli, au regard du tableau présenté par vous sur la situation des droits humains, au regard également des recommandations formulées lors de la 42e session de l'EPU, nous sommes très rassurés, on peut s'assurer qu'à la prochaine, aux prochaines assises, la RDC partira tête haute avec un rapport très bien ficelé, et qui donnera, qui leur permettra, lui permettra d'avoir une note très positive.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, tout ce qui se passe ici dans notre pays n'est pas toujours noir. Mmh. Il y a de grandes réalisations, je ne vous cache pas la vérité. Sur les 239 recommandations, comme je l'ai dit tantôt, mmh. Le gouvernement de la République a fait énormément. Et alors, pour l'instant, ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que il faut avoir confiance à notre chef de l'État et son gouvernement qui essaye chaque jour de relever les défis. Dans tous les pays du monde, le problème des droits de l'homme se pose toujours. Mais, avec la détermination, on peut aller de l'avant. Sincèrement, je peux clôturer, je peux dire que ayons confiance à notre chef de l'État et les choses peuvent toujours aller. Donc voilà la conclusion que je fais faire sur tout ce que je viens de vous dire.
Monsieur Ingoli, merci d'avoir reconnu qu'il y a pas mal de défis qui restent encore à relever pour améliorer sensiblement la situation des droits humains en République démocratique du Congo. Mais il faut d'une part noter également qu'effectivement il y a des avancées très significatives en termes normatifs en ce qui concerne l'amélioration de la situation des droits humains en RDC, et il reste 2 conventions auxquelles nous devons d'ailleurs adhérer. Et vous avez dit que le retard c'est pas voulu par la RDC, mais je crois que dans les prochains ou lors des prochaines assises, la RDC partira quand même tête haute avec un rapport très bien ficelé dans des soucis d'obtenir une bonne note. Merci à vous d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission avec la promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Et nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis avec une attention soutenue. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. À très vite.